Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez bien? Alors, ce matin, je voulais commencer par, avant de vraiment démarrer, remercier les responsables de l'Église qui ont mis leur confiance en moi pour que je puisse avoir ce moment avec vous en tant qu'humble serviteur. Et voilà, je suis très reconnaissant de pouvoir être là et partager avec vous ce matin. Alors, il y a une zapette quelque part. Elle est là. Okay. Alors, ce matin, on va parler de Sauveur, on va aussi parler de Seigneur, et donc on va parler de Christ, Sauveur et Seigneur. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Bon, évidemment, il y avait un piège dans la question, et on va voir qu'en fait, ça, c'est faux. Alors peut-être que ça en interpelle certains, mais c'est très bien, comme ça j'ai créé l'intrigue, et maintenant j'ai capté toute votre attention. Alors, on va commencer par le mot sauveur. Alors, c'est très bien parce qu'en plus, cet après-midi, on a des baptêmes. Et je pense que parmi les baptisés, la plupart, j'espère même tous, ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur et sont prêts cet après-midi à le proclamer publiquement. Alors, le mot sauveur, il prend une grande place dans nos vies. Parce que quand on accepte Jésus dans sa vie, on reçoit le pardon des péchés et on est libéré du salaire de la mort et on a accès à la vie éternelle. Et ça, assez bizarrement, on l'oublie jamais. Mais on va voir que il y a pas que ça dans la vie du chrétien, même si effectivement on accepte Christ comme sauveur et protecteur. Et j'imagine si je vivais dans un pays où les chrétiens sont persécutés et que j'étais attrapé par la police, le type de mes prières serait sûrement « Aie pitié de moi, viens à mon aide, viens à mon secours, protège-moi » et je serais bien content d'avoir un Christ qui soit sauveur. Mais quand on accepte Christ comme sauveur, on l'accepte aussi comme Seigneur. Et on le chante même dans nos chants. Je pense par exemple au chant 799, il y a un moment on dit « Dieu nous appelle à servir sur terre ». Donc si on est serviteur, c'est bien que Christ est notre Seigneur. Je pense aussi au chant 281, où on dit « Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'un seigneur? Alors, j'ai commencé, puisqu'on utilise le langage français, par prendre le dictionnaire. Des fois, c'est bien de regarder dans la Bible, et quand on ne comprend pas un mot ou qu'on a un doute sur un mot, on regarde sa signification. Et donc, ça nous dit que c'est celui de qui dépendent des terres, des personnes, celui qui a une autorité absolue sur quelqu'un ou quelque chose. Et notre Seigneur à nous, c'est effectivement le créateur de toutes choses, et donc toutes choses dépendent de lui. Il est au-dessus de tout, il a autorité sur tout et sur tous, et sur toutes aussi. Et non seulement un seigneur a une autorité sur toutes choses et toute personne, mais ses sujets doivent aussi reconnaître cette autorité. Je sais qu'à l'époque des Romains, quand les soldats romains se croisaient, un premier soldat disait « César est le Seigneur » et le Romain qui était en face lui répondait « Oui, César est vraiment le Seigneur ». Et c'est pareil pour nous, quand on a accepté Christ comme Seigneur, ça veut dire qu'on l'a invité à venir régner dans nos vies. Alors maintenant qu'on a vu ces deux mots, on va parler de la combinaison. Alors, vous vous rappelez la phrase que je vous avais affichée au début de ce message, « Christ, Sauveur et Seigneur ». Eh bien, il y a un verset très intéressant dans la Bible qui va démonter cette phrase. Et on va regarder ça tout de suite. C'est dans Romains, au chapitre 10 et le verset 9. Pour vous aider, j'affiche tous les versets. Donc, comme ça, je ne vous embête pas à chercher dans vos Bibles à chaque fois. Donc Romains 10, verset 9, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, j'ai envie de rajouter le mot « alors tu seras sauvé ». Et dans ce verset, on voit qu'on n'a pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, mais qu'on l'a d'abord accepté comme Seigneur et ensuite comme sauveur. Et le fait d'inverser les mots, de dire Christ sauveur et Seigneur, c'est très révélateur de notre nature humaine, de la mienne en tout cas. Et naturellement, on a tendance à préférer l'aspect sauveur que l'aspect Seigneur. L'aspect sauveur, c'est pour moi, c'est moi qui reçois, je suis au centre du truc, et c'est formidable parce que tout se passe autour de moi, et je suis vraiment au centre. Alors que si je prends le mot Seigneur, là, d'un coup, c'est à moi de faire, c'est une démarche de ma part, c'est un effort de ma part, et c'est plus moi qui suis au centre, c'est Christ qui vient au centre. Et si on veut un Christ qui soit Seigneur, on doit accepter qu'il règne en nous et qu'on ne soit plus au centre, mais que ce soit Dieu qui soit au centre de ma vie. Et il va y avoir un changement de centre de gravité. Pour ceux qui étaient là, une des dernières présidences que j'avais faites, on avait cette image d'un gars en vélo avec l'axe de la roue qui n'était pas au centre de la roue. On avait vu les dégâts que ça avait fait, puisque le gars ne pouvait pas faire de vélo et tomber à la fin. Et donc, on change le centre de gravité. Et au lieu qu'on soit au centre de notre vie en croyant qu'elle est équilibrée, mais en fait, elle ne l'est pas, on met Christ au centre de nos vies pour avoir un véritable équilibre. Et Dieu n'est pas là pour moi. C'est moi qui suis pour lui. Alors, je vous propose un petit schéma. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Hop. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce dessin. Alors, en fait, non, pas du tout. C'est vrai que, de temps en temps, on a tendance à penser qu'on peut vivre quelque part entre les deux, là, et puis on peut s'arranger avec un peu de droite, un peu de gauche. Et parfois, ça nous arrange bien de penser qu'il y a cette zone entre les deux, là. Mais le vrai schéma, c'est celui-là. Il n'y a que deux royaumes, le royaume de gauche ou le royaume de droite. Et donc, je vois deux problèmes par rapport à ça dans ma propre vie. Le premier problème, c'est que le royaume de droite, pour y vivre, il faut y être né. Et le problème qui va avec ça, c'est que moi, je suis né dans le royaume de gauche. Ça, c'est mon premier problème, c'est que je ne suis pas né au bon endroit. Et mon deuxième problème, c'est que j'ai du mal à quitter le royaume de gauche, parce que quelque part, j'ai l'impression que j'y suis bien et que je m'y sens bien. Et en fait, ce royaume à gauche, c'est un peu comme un bateau qui coule. Et du coup, le capitaine dit à tous les passagers, bah, écoutez, ceux qui sont en seconde classe, vous pouvez aller en première classe. C'est open bar, vous pouvez aller vous servir au bar tant que vous voulez, etc. Et tout le monde sur ce bateau pense que c'est la fête, parce que d'un coup, on a tous les droits, mais malheureusement, le bateau est en train de couler, et donc c'est quelque chose qui va pas durer. Et effectivement, tout est centré sur moi, tout est pour mon plaisir, pour ma satisfaction, mais malgré le fait que je pense être le centre de gravité, je vous rappelle que le bateau est en train de couler et que, inévitablement, je suis perdu. Même si j'ai l'impression d'être bien, je suis perdu. Alors, l'autre option, c'est de vivre dans le royaume de droite qu'on avait tout à l'heure sur le schéma, donc le royaume de Dieu. Mais comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'il faut y être né et que ce n'est pas mon cas. Et c'est là que Dieu, dans son immense bonté, pour me sauver, a envoyé son Fils qui est mort et ressuscité pour que je puisse être au bénéfice de cette résurrection et que je puisse naître de nouveau. Et que enfin je puisse être considéré comme étant né dans le royaume de Dieu, dans le royaume qu'il y avait à droite sur mon schéma. Et je ne l'invente pas, Jésus lui-même l'a dit. On peut voir ça dans Jean 3, au verset 3. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » En effet, à travers cette nouvelle naissance, on devient libre, on devient libéré du péché, mais c'est parce qu'avant ça, on a accepté Christ comme Seigneur, et on peut trouver cette logique en Actes, au chapitre 2, verset 36, qui dit « Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude, Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc ce Jésus qui a été crucifié pour moi, pour que je puisse être libéré et sauvé, a avant tout été fait Seigneur pour ma vie. Alors en effet, la mort de Christ fait de moi une nouvelle personne, mais c'est parce qu'avant tout, elle a fait de Christ mon Seigneur. Et quelle est la conséquence de tout ça ? On va trouver ça dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, et au verset 15. « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. » Donc Christ est réellement Seigneur, et donc ma vie ne m'appartient plus, elle lui appartient à lui, c'est lui qui a autorité sur toute ma vie. Et là, on a changé le centre de gravité. Je ne sais pas si vous vous souvenez du bateau, mais maintenant c'est plus. J'ai quitté ce bateau parce que Christ s'est fait Seigneur dans ma vie, et c'est plus moi qui suis au centre de ma vie, mais c'est Christ. Je n'existe plus pour moi-même, c'est Dieu qui passe avant tout dans ma vie. Et en fait, on voit que il n'y a pas ce no man's land où on pourrait avoir un petit morceau d'existence uniquement pour nous. On a le choix qu'entre deux royaumes. Et si on veut être dans ce royaume, ça implique d'accepter le règne de Christ dans nos vies pour pouvoir être sauvé et vivre avec Dieu pour l'éternité. À l'époque où il y avait des seigneurs en France, pour ceux qui se rappellent les lointains cours de géographie, d'histoire, pardon, vous voyez comme j'étais bon à l'école, les seigneurs avaient tous les droits sur les serfs. Ils avaient des droits sur leur terre, ils avaient des droits sur leur vie, parfois même sur leur femme. Voilà, le seigneur avait vraiment tous les droits et tout lui appartenait. Et donc le seigneur avait la première place. Malheureusement, il était rarement bien intentionné. Par contre, nous, on a la chance d'avoir un Seigneur qui a de bonnes intentions pour nous, mais le principe reste le même, on ne s'appartient plus, on appartient à Christ, on appartient à notre Seigneur. Dieu doit être tout dans nos vies. Toute notre vie lui appartient. Il n'y a pas de zone intermédiaire entre les deux. C'est soit on a sa vie avec le diable, soit on a la vie avec Christ, et il n'y a pas de zone au milieu. Christ doit avoir la première place dans nos vies. Il doit passer avant tout, avant ma femme, avant mon mari, avant mes enfants, mes parents, mon meilleur ami, ma meilleure amie, etc. Et quand on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur, ça veut dire qu'on devient serviteur, qu'on devient esclave de Dieu, esclave dans le bon sens du terme. Ça peut paraître surprenant, mais si on se rappelle encore de ce schéma, j'insiste dessus, on n'a que deux choix. Soit on est avec Satan, on est esclave du péché et on a droit à la damnation éternelle, soit on décide d'accepter Christ comme Seigneur, on est sauvé et on se retrouve dans le royaume de Dieu, esclave de Christ, avec la vie éternelle. Et si on accepte Christ comme Seigneur dans nos vies, on doit le servir, et c'est tout à fait normal. Et on retrouve ça dans Luc, au chapitre 17, les versets 7 à 10. « Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qu'il était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Et voilà la vraie posture du bon serviteur face à son Seigneur. Et en donnant notre vie à Christ, on est devenu ses serviteurs. On doit garder nos regards fixés sur lui en toutes circonstances. Et j'aime beaucoup dans les églises catholiques ces temps qu'il y a où les gens se mettent à genoux et s'humilient devant Dieu et reconnaissent Christ comme leur serviteur. Et je trouve que ça manque dans nos églises. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai invité à imaginer quelle prière on pourrait faire si on était arrêté pour notre foi par les autorités dans un pays où les chrétiens sont persécutés. Et il y en a dans la Bible à qui c'est arrivé, entre autres à Paul et Silas, qui ont été arrêtés pour avoir libéré une femme d'un esprit malin. Et donc, on les a roués de coups et on les a mis en prison. On retrouve cette histoire dans Actes, au chapitre 16, les versets 23 à 25. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant au gardien de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et là, on voit que malgré la persécution, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré les soucis, Paul et Silas sont préoccupés par mettre Dieu au centre de leur vie en chantant des louanges. Et probablement qu'ils ont prié les prières que j'ai données tout à l'heure, viens à notre secours, aide-nous. Mais avant tout, ils ont loué Dieu et ils ont gardé les yeux fixés sur lui en le mettant au centre. Et d'ailleurs, si on lit la suite de l'histoire, on apprendra qu'ils seront miraculeusement sauvés et donc libérés. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux Romains 10, verset 9, qu'on a vu tout à l'heure. « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » D'abord, on proclame Jésus comme Seigneur, et ensuite, on peut être sauvé. Quand on a laissé Christ rentrer dans nos vies, quand on lui a ouvert la porte de notre cœur, on n'a pas fait une faveur au pauvre petit Jésus qui dormait tout seul dehors dans le froid. C'est lui qui est venu à nous, qui a toqué à la porte, sachant que nous avions besoin de lui. Et quand on a décidé d'ouvrir, on a ouvert la porte à un roi qui est venu régner dans nos vies. Et donc, on a accepté tout ce qui en découle, et entre autres, de servir Christ jusqu'à notre mort. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire des Romains tout à l'heure, quand ils disaient « César est le Seigneur ». À l'époque, les chrétiens, au péril de leur vie, répondaient « Non, Jésus-Christ est le Seigneur ». Et il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on accepte Christ comme sauveur, on aura forcément plus de confort dans nos vies. On n'est pas là pour lui dire « Seigneur », parce qu'on ose encore quand même l'appeler comme ça, « Donne-moi ci, donne-moi ça ». Parce qu'avant tout, on l'a accepté comme Seigneur et ensuite comme sauveur. Donc, ce n'est pas lui qui nous doit quelque chose, c'est nous qui lui devons quelque chose. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est Seigneur et Sauveur, c'est pas soit l'un, soit l'autre, on doit prendre tout le package. En préparant ce message, j'ai pensé au peuple juif qui libéré des Égyptiens, s'est retrouvé sauvé de l'oppresseur. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont fini au Club Med, puisqu'ils ont dû errer 40 ans derrière dans le désert. Et donc, voilà, Dieu n'a aucune obligation envers nous. Certes, il nous sauve, mais c'est lui qui prend les rênes de notre vie, c'est lui qui décide comment notre vie doit se dérouler. On n'a plus de pouvoir, on n'est pas censé prendre de pouvoir sur notre propre vie. Donc si on accepte Christ dans nos vies, on doit le laisser régner sur toute chose, et ça veut dire parfois sur celles où on ne voudrait pas que Dieu intervienne, parce que justement on aimerait bien avoir cette petite zone d'ombre, cette zone grise là où on pourrait faire un peu ce qu'on veut. Ça ne marche pas comme ça. Alors, une petite astuce pour savoir là où vous devez travailler dans vos vies pour laisser Christ régner sur la totalité de vos vies. Je pense qu'il y en a certains ici qui, de temps en temps, soulignent des passages dans leur Bible. Alors moi, ce que je peux vous conseiller ce matin, c'est de reprendre votre Bible et de lire tous les passages que vous n'avez pas soulignés. Alors j'ai un petit exemple assez sympa. On va regarder Matthieu 11 au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Ah, il me plaît bien celui-là. Allez, je vais le souligner. Ah, et puis allez, un coup de stabilo aussi. Et c'est vrai que Jésus nous invite tous à nous décharger nos fardeaux, à nous reposer. Mais là, on est vraiment dans l'aspect Jésus sauveur. C'est nous qui sommes au bénéfice, c'est nous qui profitons. Et on a juste envie de souligner ça 10 fois et de passer toutes les couleurs de stabilo dessus. Par contre, le verset 29, donc la suite, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. » Voilà, tout de suite, on a moins envie de le souligner celui-là. Hein. Et Jésus, il est prêt à porter nos fardeaux, mais on doit se soumettre à lui, se laisser conduire, se laisser instruire par lui, se laisser guider par lui, lui remettre l'entièreté de nos vies entre ses mains. Mais c'est là que notre Seigneur est différent, parce qu'avec notre Seigneur, il y a des promesses qui vont avec, et donc j'avais occulté la fin du verset qui dit « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Proclamer Christ comme Seigneur dans nos vies, ça n'a rien d'anodin. Et Dieu n'est pas une tartine de pain où on mange que la confiture. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible, j'en cite un ou deux comme ça. Je pense à l'homme qui voulait aller enterrer son père avant de suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, non, c'est moi qui passe avant tout. Donc soit tu me suis, soit tu vas avec ton père, mais tu dois faire un choix. Je pense aussi au jeune homme riche qui était prêt à tout donner à Jésus, sauf sa richesse. Et Jésus lui a fait comprendre que non, c'est soit tu me donnes tout, soit tu ne me donnes rien, mais je ne prends pas un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et suivre Jésus, c'est un choix, mais si on fait ce choix, si on accepte son salut, alors on doit se soumettre à lui et se placer sous son autorité. Et devenir citoyen du royaume de Dieu, on a parlé du royaume de Dieu avec Eric tout à l'heure, ça implique de le servir. Et le meilleur exemple, c'est Jésus lui-même. On connaît bien ce passage, là, dans Marc 14, alors je crois que c'est verset 36, pas 35. « Abba Père, pour toi tout est possible, éloigne de moi cette coupe, pardon. Cependant, qu'il n'arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Donc même Jésus a su se soumettre à son Père. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir dans la parole. Et tout à l'heure, je vous parlais des seigneurs au Moyen-Âge qui avaient tout pouvoir sur les serfs, mais en cas de conflit, ils devaient les protéger les siens, et tout le monde pouvait venir se réfugier dans la forteresse. Et avec Dieu, c'est pareil. Si on habite dans son royaume, on se met aussi sous sa protection. Et c'est pour ça que dans Matthieu 6, 33, on nous invite d'abord à chercher le royaume de Dieu. Parce que si d'abord j'accepte son règne dans ma vie, si d'abord je l'accepte comme Seigneur, alors tout le reste me sera donné en plus. Si on accepte d'être ses serviteurs, si on accepte d'être ses esclaves, alors il y a de belles promesses pour nous. Et les plus belles sont le fait que, premièrement, nous serons sauvés et qu'on pourra vivre à ses côtés dans son royaume. Et c'est dans ce royaume, après notre sauvetage ultime, qu'on peut tous être là à proclamer règne, puissance et gloire à l'agneau. Alors je voudrais finir en vous laissant un dernier verset. C'est Deutéronome, le chapitre 30 et le verset 15. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Et effectivement, Dieu nous met devant un choix, ce qu'on a vu tout à l'heure, soit le péché et la mort, soit le royaume de Dieu, être sauvé et la vie éternelle. Et si on veut être sauvé, si on veut la vie et le bonheur, on a vu qu'il faut accepter Christ comme sauveur. Mais si on veut accepter Christ comme sauveur, on a vu qu'il y avait une condition qu'on va retrouver ici, dans le verset suivant. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles. Et ce verset, c'est ça, accepter Dieu comme Seigneur. Sachant que derrière, on a de belles promesses, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Alors, je ne suis pas sauveteur, mais peut-être que Quentin pourra me confirmer ou pas, mais j'ai entendu dire une fois que pour sauver une personne en train de se noyer, il fallait commencer par l'assommer, parce que sinon elle paniquait trop et elle nous entraîne avec elle sous l'eau. Et en fait, l'image, elle est intéressante, parce qu'avec Dieu, c'est pareil. Il ne peut pas nous sauver si on ne le laisse pas prendre le contrôle de toute notre vie. Donc la première démarche, si on veut donner sa vie à Christ, c'est bien de l'accepter comme Seigneur, pour qu'il puisse prendre cette autorité sur nous, qu'il puisse prendre le contrôle de notre vie, et alors il pourra nous sauver. Il ne peut pas nous sauver si on n'accepte pas qu'il prenne le contrôle sur nos vies. Alors mon vœu après le message de ce matin, c'est qu'on puisse ne plus prononcer le nom Seigneur de façon banale, mais avec une pleine conscience de sa profonde signification. Et je sais que cet après-midi, il y en a qui vont se faire baptiser, pardon. Alors je suis désolé de vous poser ces questions à 3 heures de l'échéance, mais pour vous rassurer, ces questions, elles sont valables pour moi, pour nous tous. Et c'est des questions qu'on doit se poser au quotidien. On doit se remettre au quotidien dans notre comportement vis-à-vis de Dieu. Et ces questions sont vraies pour toutes celles et ceux qui soit veulent accepter Jésus comme sauveur, soit qui l'ont déjà accepté comme sauveur et qui doivent réfléchir sur ce que ça implique. Et donc, mes questions de ce matin... C'est, est-ce que ce matin, avant tout, nous sommes prêts à fléchir les genoux devant le roi, à ranger notre orgueil? Est-ce que je suis prêt à m'oublier, à plier le genou et à faire de Christ mon Seigneur? Alors malheureusement, ce matin, dans cette salle, on n'a pas vraiment la place entre les chaises de se mettre à genoux, mais je vous invite quand même à baisser vos têtes en signe de respect et de soumission envers notre Dieu. Et puis je vais prier. Mon Seigneur, on veut commencer par te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où on a prononcé le nom de Seigneur en vain, sans prendre conscience de ce que ça implique derrière. Mais on veut te remercier parce que malgré tout, tu as accepté de nous sauver, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on veut encore t'inviter ce matin à régner dans nos vies, à prendre la première place, à prendre toute la place, Seigneur. On veut être tes serviteurs inutiles, on veut être tes esclaves, on veut être à ton service pour pouvoir être au bénéfice de ces belles promesses que tu nous as faites. On est reconnaissant pour ton Fils que tu as envoyé sur la croix, qui nous a permis de naître dans ton royaume, d'être considéré comme habitant du royaume de Dieu, Seigneur. C'est le plus beau cadeau que tu as pu nous faire, et en retour, on veut juste baisser nos têtes ce matin, se mettre à genoux devant toi, en tout cas de façon imagée, et de nous rappeler qui tu es. Tu es ce grand Dieu qui domine sur toute chose, qui a autorité sur toute chose, sur toute personne. Et aide-nous à nous rappeler de cela au quotidien. Je pense à nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser cet après-midi, que tu puisses aussi leur faire comprendre cette notion de Seigneur et Sauveur, Seigneur. Et que tu les bénisses, que tu les accompagnes, que tu les aides à grandir avec toi, à leur montrer comment elles peuvent te servir pour pouvoir être sauvées tout au long de leur vie, Seigneur. Et je les remets entre tes mains, en te remerciant au nom de Jésus. Amen.
Voilà. Bon dimanche à tous.